Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie. Je suis Frédéric, le F de Girafe. Et je suis très heureux de vous retrouver pour mon émission Autour d'eux, autour d'eux. Comme vous le savez, autour d'étudiants, d'experts, d'acteurs du monde des savoirs, autour d'un sujet ou d'un thème. Et aujourd'hui, l'objectif est de donner l'opportunité à des étudiants du Havre de parler de leur parcours, leurs études, l'univers métier et les compétences qu'ils acquièrent et qu'ils activeront dans leur futur job. Je reçois donc aujourd'hui Yanis et Gabin, étudiants en master à la Manu Campus du Havre, la Manu étant une école d'enseignement supérieur préparant au métier du digital. Bonjour Yanis, bonjour Gabin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous et de nous parler de vos trajectoires, des compétences que vous avez acquises et des métiers vers lesquels vous vous dirigez. Alors, vous êtes donc en master, donc comme on l'a dit à la Manu, en spécialité design-création, c'est bien ça?
Design-création numérique, c'est bien ça.
Oui. Ok. Donc avant d'échanger sur ce qu'est votre spécialité, ce à quoi vous vous destinez en apprenant cet univers métier, dans le cadre d'une formation en apprentissage, hein, si je ne dis pas de bêtises, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos parcours avant, ce qui vous a amené vers ces études et ces univers métiers?
Très bien, donc je vais
Gabin,
commencer.
Yanis, pardon.
Donc, bonjour, je m'appelle Yanis Royeux. Je suis actuellement étudiant en master design création numérique au Havre. Donc moi, après le lycée du Jean Prévost, je suis parti directement en bachelor métier du numérique à la Manu.
D'accord.
Et donc après mon bachelor, j'ai intégré directement le master à la Manu.
D'accord. Donc en fait, après le bac, c'est lié à la Manu et
ça.
Tu l'as plus quitté.
Voilà,
enfin, tu vas la quitter quand même à un moment donné pour exercer ton métier. Exactement. Et donc pour toi,
Gabin ? Alors mon parcours est un peu plus compliqué. En fait, j'ai commencé après le bac par une licence d'histoire sociologie en fait, à l'université du Havre parce que je voulais devenir professeur des écoles. Du coup, j'ai continué en master MEF premier degré au Havre. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que c'était pas ma voie et que je voulais changer de voie, du coup, de travailler dans le design numérique. Et c'est là, en fait, où j'ai fait passerelle pour intégrer directement la troisième année de bachelor à la Manu, en fait.
D'accord. Et alors, pour toi, qui a un parcours un peu plus différent, j'allais dire complexe. Ouais, non, c'est pas complexe, mais c'est différent. Qu'est-ce qui a fait la bascule entre le professeur des écoles et le digital?
Alors, en fait, c'est quand je travaillais en tant que professeur d'école, du coup, c'était de nombreux stages et du coup, de nombreuses interventions, en fait, dans le métier directement. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que je préférais plutôt trouver des moyens de montrer ce que je voulais montrer en fait par le design et par l'information que je voulais transmettre aux élèves plus que par l'enseignement. Et c'est le métier en lui-même aussi global de l'enseignement et de l'éducation nationale qui m'a un peu refroidi, et du coup j'ai vu que j'avais d'autres passions et d'autres préférences pour ma vie future.
Très bien. Donc ma première question rejoint déjà plus ou moins cette première précision, ce propos préliminaire sur vos parcours. C'est comment ces études sont devenues votre projet. Comment vous vous êtes projeté. C'est le nom, c'est le verbe qui suit le mot projet. Comment vous vous êtes projeté à travers ce domaine et ces études?
Moi déjà en troisième, j'ai fait un stage dans l'infographie, car mon père est infographiste.
D'accord.
À la base, je voulais devenir archéologue. Après, j'ai vu les longues études, et donc je me suis rapatrié sur le design, le graphisme. Et donc après, je me suis dit, je vais faire comme mon père. Donc je suis parti directement dans les études de graphisme, dans le numérique.
Donc il y a là une rationalité familiale.
Voilà, c'est ça.
Et pour toi, Gabin ?
Pour ma part, c'était plus du point de vue du bien-être professionnel. Je me disais que je voulais plus faire ma vie dans un métier qui me plaisait avant tout, avant d'avoir un métier qu'on pourrait qualifier comme stable, comme professeur des écoles et autres, qui pouvait être plus... avoir plus cette définition-là, et du coup je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire un métier qui pourrait changer de l'ordinaire en fait, même si c'est de plus en plus démocratisé.
Un côté passion.
C'est ça, du coup je me suis plus dit c'est la passion avant tout, et c'est dans ça que je vais être heureux en fait.
Alors si on s'intéresse à votre spécialité, donc le design création, pour ceux qui nous écoutent, quelle définition vous pourriez donner de cet univers métier, de ce métier que vous apprenez?
Déjà c'est un terme assez global. Ça rejoint le numérique, et après il y a diverses choses dedans. Il peut y avoir du graphisme, de la vidéo, donc ça regroupe vraiment un panel de métiers très large, centré quand même sur la création, le graphisme Et il faut vraiment être créatif, je pense, pour être dans ce cursus.
D'accord. Avant de te laisser la parole, Gabin, est-ce qu'on peut parler d'association entre métiers techniques et artistiques ?
On peut, oui, parce qu'il faut de la technique pour maîtriser les logiciels.
Ouais.
Et il faut aussi tasser un côté artistique, créatif, comme je le disais, pour imaginer les choses qu'on veut reproduire après sur les logiciels.
Gabin ?
Ah, tout à fait, je trouve que personnellement, le côté, on va dire, plutôt créatif et imagination est important dans le métier, mais faut pas mettre de côté l'esprit technique du métier, parce que il faut avoir l'imagination, mais comment en fait on va faire ressortir l'imagination, et c'est tout ça en fait, parce que des fois
ça reste dans le cerveau, quoi.
C'est ça, il y a plein de fois où on a un truc en tête et on se dit ah ça je veux le faire, mais en fait je peux pas le faire, et du coup c'est surtout les efforts techniques qu'il faut faire, l'apprentissage technique qui est important dans le métier aussi, parce qu'on se dit maintenant en fait c'est ça qui va m'ouvrir à d'autres portes, et c'est en fait c'est ça qui va ouvrir l'imagination, et c'est ça qui est plutôt sympathique, c'est que c'est vraiment un tout en fait, c'est 50-50.
C'était juste, tu m'as devancé, c'était ma question, si on devait faire un ratio ou en tout cas un équilibre des choses, on est sur du 50-50-50.
Je pense aussi,
c'est ça, oui, parce qu'en fait on peut être très limité à avoir juste l'imagination, parce qu'en fait si on a l'imagination et qu'on n'a pas les techniques nécessaires pour le faire, on peut rien faire. Et si on a toutes les techniques du monde, mais qu'on ne sait pas quoi faire, en fait, pas qu'est-ce qu'on veut faire, sur quoi on va partir, c'est un peu limité aussi, en fait.
Ça rejoignait totalement ma question suivante, vous l'avez devancée, donc voilà, on a la réponse sur cet équilibre entre une discipline qui allie l'artistique et le technique, et de manière équilibrée. Et tout ça, vous l'apprenez comment, ici, à la Manu? Quelles sont les méthodes, les façons de fonctionner? J'imagine qu'il y a du mot de projet. Enfin, si vous nous en dire un petit peu plus sur les modalités pédagogiques.
Il y a beaucoup de projets, surtout en projet, de projets dans la création numérique, faire des petites vidéos, des petites affiches. Un peu de théorie quand même, car il faut toujours un peu de théorie pour savoir d'où vient le graphisme, par exemple, l'histoire un peu du graphisme. Et après, une petite démonstration de comment utiliser le logiciel, et après on part directement en projet pour se faire les mains dessus directement. Ouais.
D'accord. Ça me fait rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, tous les deux. Sur la partie technique, j'imagine que y a des éléments techniques à apprendre, que ce soit des logiciels. Enfin, moi je suis très éloigné de ces sujets-là, donc j'ai un langage de profane, mais je vois comment ça peut se passer. Pour la partie artistique, on a sa propre personnalité, sa propre vision de l'expression artistique. Mais est-ce que vous avez quand même des cours où on vous encourage à trouver de l'inspiration à travers d'autres artistes, en allant, je ne sais pas, au cinéma, voir des expos,
Tout à fait. En fait, nos professeurs qui nous accompagnent, ils nous poussent à explorer des créativités sur lesquelles on aurait des bases un peu moindres, un peu moins poussées qu'on pourrait avoir d'habitude. Ils nous apprennent à être un peu moins scolaires, en fait. Souvent, c'est le terme qui est assez utilisé. En fait, tout le monde fait à peu près la même chose souvent. Et vraiment, on veut trouver chacun des pattes un peu différentes d'artistes qu'on pourrait retrouver. Et du coup, c'est vrai qu'aller voir des expositions, des musées comme ça, ça nous ouvre vraiment pas mal de choses. Et on a plein de sites aussi Internet pour nous aider à faire de la veille numérique, qui est aussi une grande partie de notre métier, la veille. Et c'est grâce à ça qu'on va explorer, gagner en compétences et en expérience, en fait, au niveau imaginatif et expérience de création.
Si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, ce métier, on peut le dater historiquement? Il existe depuis quand? Depuis que l'informatique existe
Depuis Internet, je dirais, peut-être les années 90 où l'Internet est apparu. Après, quand les moteurs de recherche sont apparus comme Google, les images aussi sont apparues. Donc autour peut-être des années 2000, vraiment que notre branche prenne une autre dimension numérique, vraiment.
C'est ça, c'est je pense une évolution parce qu'on a toujours voulu communiquer, en fait, parce qu'aussi on a une grosse base de communication dans notre métier, on a toujours voulu communiquer depuis, par exemple, l'invention de l'imprimerie ou autre, toujours voulu communiquer d'une certaine manière, et je pense que l'évolution du design dans cette communication a évolué, et maintenant ça s'est digitalisé grâce à nos outils Internet et à nos PC, mais c'est un métier qui est vieux comme le monde, de communiquer et de savoir communiquer, on va dire, de façon belle et de façon à ce qu'on apprécie, artistique, tout à fait. Mais ça a grandement évolué grâce aux PC sur lesquels maintenant on travaille toute la journée.
C'est plus la modernisation des supports
c'est ça,
qui a fait
qui
que
a évolué
ça,
le métier.
Exactement, qui a fait bouger.
Et qui en a créé aussi d'autres, du coup.
Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens juste de dire, Gabin. Ça en a créé d'autres. Ça voudrait dire qu'il y a différentes branches au sein dans ce métier, ou en tout cas de cette spécialité du design créatif.
Alors oui, il y a plusieurs branches. Par exemple, on pourrait citer rien que ici, il y en a qui font plus de la communication. Du coup, ceux qui vont s'occuper des communications sur les réseaux sociaux de nos entreprises, etc. Il y en a qui vont être plus sur du web design. Mm-hmm. Du coup, du design de maquettes, de sites internet, etc. Entre UX et UI designer. Mm-hmm. Il va y avoir aussi des motion designers qui vont s'occuper de faire des vidéos et de créer en fait, voilà, des produits vidéo. Mais les infographistes aussi, il y a plusieurs métiers en fait qui sont groupés et en fait on nous apprend à être multitâche, à être plusieurs fonctions en une dans notre métier. C'est surtout ça qui est important.
Et ce qui intéresse les entreprises, j'imagine.
C'est aussi. Ça. C'est ce qui, après, il y a beaucoup d'abus aussi au niveau des entreprises, souvent
qui en demandent beaucoup
aux alternants et aux stagiaires, mais c'est avant tout être multitâche, on va dire.
Quelles compétences, selon vous, sont véritablement indispensables, au-delà de celles dont on vient de parler, qui sont celles de base, c'est-à-dire avoir cette aisance informatique, cet esprit créatif? Mais je dirais, au-delà de ces deux axes, qu'est-ce qu'il y a d'autre au plan humain, au plan de l'interaction avec les autres?
Faut pas hésiter à discuter avec les autres. Transmettre son savoir-faire, en fait, transmettre ses connaissances, être curieux aussi, suivre les nouvelles tendances, comme on disait, faire de la veille, donc savoir ce qui se fait en ce moment pour ne pas être, on va dire, en retard. Et voilà, je pense vraiment...
Oui, donc curiosité, communiquer aux autres, c'est-à-dire rendre votre discipline, en tout cas votre métier, compréhensible aux autres au sein d'une structure, d'une entreprise, parce que c'est vrai qu'on a toujours une tendance, quand on n'est pas de l'informatique, de dire que les informaticiens, ils ont leur propre façon de fonctionner, leur propre langage. Et nous, on demande quelque chose, et une fois un résultat, mais entre les deux, on n'a rien compris.
C'est ça.
Et donc, vous faites un peu œuvre de pédagogie. Et
complètement.
Voilà.
Mais outre tout ça, on va dire aussi, je pense que c'est un métier de passion, parce que comme dans beaucoup de métiers, comparé à d'autres métiers, évidemment, c'est un métier où on va pouvoir avoir beaucoup de différenciation entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui fait le métier juste comme ça. Mmh. Quelqu'un qui va s'intéresser à son métier va pouvoir peut-être, par exemple, produire plus de choses en connaissant ce qui va fonctionner, ce qui va marcher, ce qui va plaire, que quelqu'un qui va juste venir pour faire le travail qui lui est demandé. Et du coup, d'être passionné, ça change quand même la dimension de son métier et le produit qu'il va pouvoir faire pour, par exemple, son entreprise ou ses clients, en fait.
Ouais. On va aborder dans la question suivante un sujet éminemment d'actualité et peut-être pour vous une révolution utile, mais aussi peut-être dangereuse, qui est celle, vous me voyez venir, de l'intelligence artificielle et de voir quelle place ça prend dans votre spécialité. Design, donc création. Comment vous intégrez ces évolutions, à la fois au plan technique, métier, mais aussi, je dirais, presque philosophique. Comment vous l'intégrez? Et du coup, est-ce que pour vous, l'IA, aujourd'hui, et dans ce qu'elle peut devenir, sera un booster de compétences, ou parfois peut-être un danger, avec ce fameux fantasme, ça va prendre la place de l'humain, quoi. Voilà.
Alors, nous, on est assez, on va dire, aguerris sur le sujet, vu qu'on est, on a connu l'avancée et on est toujours en étude. Du coup, on nous en parle beaucoup, nos professeurs, etc. Ou même nous, on voit beaucoup de choses sur le sujet. Et on sait que c'est une aide précieuse, en fait, pour tout designer, pour toute personne dans la communication ou autre. Mais on fait en sorte que l'outil, en fait, travaille avec nous et pas pour nous, en fait. On fait en sorte que l'outil soit un outil de plus, qu'il soit pas, en fait, juste la base de notre travail et qu'il fasse tout pour nous. C'est vraiment cette notion là qui va être à travailler, en fait, à faire attention,
c'est remettre la frontière entre l'utilité de cette technologie,
l'objet qui travaille avec nous plutôt que l'objet qui travaille pour nous, on va dire.
L'assistant qui nous assiste,
c'est ça. C'est vous faire aussi gagner du temps sur un certain nombre d'aspects vous permettre, vous, d'approfondir et d'être encore plus performant sur ce qu'on attend de l'humain, en fait.
C'est un gain de temps sur beaucoup de tâches qu'on pourrait passer des heures qui ne sont pas forcément utiles, des choses futiles ou autres. L'IA va le faire très rapidement pour nous et de façon très...
Et vous n'avez pas de crainte de ce scénario catastrophe où finalement l'intelligence artificielle, la machine prendra le contrôle sur la machine et que finalement on soit mis de côté?
Personnellement, non, à mon point de vue, vu que tout le monde travaille assez pour comprendre les limites, on va dire, de l'IA. Et tout le monde est assez sûr de soi. De toute façon, l'IA, quoi qu'il arrive, si elle remplace un homme ou pas, ou autre, mènera toujours un peu dans le mur, en fait. Et ils se rendront compte que l'humain est toujours plus fort et plus impactant à l'heure actuelle, en fait, que l'IA.
Ouais.
Mais je pense qu'on a encore de la marge avant que l'IA nous remplace.
Dans le temps, je pense. Dans le futur, on ne sait pas comment l'IA va évoluer.
Peut-être un peu trop optimiste, mais... Voilà.
Non, mais,
mais pour le moment...
Mais c'est intéressant d'avoir le regard de spécialiste que vous êtes et de futurs grands experts que vous êtes sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez, là on rentre dans le concret de votre quotidien d'étudiant ici à la Manu, est-ce que vous pouvez nous décrire un ou deux projets sur lesquels vous avez travaillé, que vous avez trouvé valorisant, intéressant à la fois au plan technique, au plan créatif, au plan humain, dans la gestion d'un projet en groupe, comment ça a fonctionné? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Du projet de troisième année de bachelor pour notre diplôme, où on devait faire le rebranding complet du réseau Cevel. Donc quand je parle de rebranding, c'est de refaire leur image, leur site, leur communication de A à Z. Et on a travaillé sur ça durant toute l'année. Donc chaque semaine, on travaillait sur un point précis, la communication, la stratégie marketing, la maquette du site web, la vidéo, du motion design. Motion design, c'est de l'animation 2D.
Ouais.
Et donc,
ça couvrait un spectre complet.
Toutes les qualités qu'on pourrait voir à la Manu, on les a travaillées. Et avec après une envie de projet pour notre diplôme. Et bientôt, je crois qu'on va présenter ce projet au réseau Cevel. Donc,
d'accord.
Un vrai projet concret dans un vrai employeur, on va dire.
Ouais, ouais.
Donc, c'était super intéressant.
Et comme autre petit projet en fait, qu'on pourrait vous parler, par exemple, dernièrement. On a fait, en première année de master, avec nos camarades, on a fait un exercice sur le packaging de bière. En fait, on a eu un intervenant, un influenceur bière sur les réseaux sociaux, qui est venu nous aider à faire des packagings de bière. Et du coup, on a dû faire trois bières différentes et lui montrer des étiquettes qu'on a ensuite imprimées et mises sur des bières. En fait, ils sont dans le hall. Et du coup, ce projet était très sympathique, car on a pu... on a pu faire quelque chose de concret qu'on a là maintenant chez nous et autres. Et c'était très intéressant, ça sortait de notre zone de confort pour certains. Et on a pu se lancer sur un monde qu'on n'imaginait pas, mais qui est vraiment concret aussi. Et c'était très sympathique à faire.
Oui, donc c'est des vraies mises en situation. Et c'est des vraies problématiques d'entreprise,
c'est ça,
de clients,
travail.
Sur lesquelles vous avez travaillé, avec un rendu qu'ils auraient pu faire par une entreprise de com.
Voilà.
D'accord, très intéressant. Bah écoutez, merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin de notre échange, mais vous n'échapperez pas à cette fameuse question qu'on pose à tous nos invités. C'est de vous demander, quelle girafe pensez-vous être ?
Moi, je pense être une girafe plutôt curieuse, on va dire, car j'aime bien toujours être à l'affût des nouvelles tendances, tester ces tendances en même temps, et vraiment découvrir aussi de nouvelles fonctionnalités pour les logiciels. Si je peux dire, les logiciels que j'apprécie en ce moment, ce serait Figma. Donc, c'est un outil qui permet de faire des maquettes de sites web, applications ou autres. Et qui est perpétuellement en pleine évolution, ce logiciel, cette application. Et donc, ouais, moi, vraiment, j'aime bien être curieux de savoir ce qui se fait en ce moment. Pour tout type, vraiment, que ce soit dans le domaine sportif, cinématographique.
Oui, différents univers, mais voilà, s'intéresser à ces évolutions. Et pour toi, gamin ?
Et pour ma part, je dirais au classique, la girafe souriante, d'essayer toujours être de bonne humeur, toujours d'être là pour les amis, les camarades, la famille, toujours le sourire aux lèvres. On essaye d'être toujours dans la bonne humeur, de faire rire les autres, etc. C'est ce qui me définit, je pense, le mieux actuellement.
Bah, c'est très bien. Puis vos approches sont différentes et très complémentaires.
Tout à fait.
Parfait.
On associe comme un duo.
Ça sera le bon binôme. Exactement. Parfait. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier à nouveau d'avoir accepté ce rendez-vous avec la Radio Girafe Normandie. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés dans le cadre de cette émission, donc autour d'eux. Vous pouvez nous retrouver, comme vous le savez, sur la nouvelle appli Radio Girafe Normandie, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Je vous rappelle que vous pouvez également regarder notre site internet Radio Girafe Normandie girafe.fr et à travers cette appli ou le site, adhérer, devenir membre de notre association sans difficulté. Donc vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie, je suis Frédéric, le F de Girafe, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.